Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. La Russie pourrait mener des exercices nucléaires près de la frontière ukrainienne. On verra que ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine agite cette menace. Mais d'abord, on va prendre le temps de vous expliquer comment on a conçu notre test électoral. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le Soir a lancé il y a plus d'un mois son test électoral, une trentaine de questions pour découvrir de quel parti on est le plus proche. Un test qui fait la part belle à la nuance, avec la possibilité de répondre plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Mais comment a-t-on procédé pour créer ce test électoral et pourquoi cette place laissée à la nuance? On a invité Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir, et Pascal Delwitt, professeur de sciences politiques à l'ULB, pour répondre à ces questions.
Bonjour Christophe.
Bonjour Pierre.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être tous les deux parmi nous. Christophe, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est important pour le Soir de mettre ce type d'outil à destination de nos lecteurs?
Parce que pour moi, c'est un outil qui s'inscrit pleinement dans notre politique éditoriale concernant les élections, c'est-à-dire qu'on veut mettre les citoyens au centre de nos préoccupations. Alors ça peut paraître évident de dire ça, et sans doute tous les gens nous le disent, mais nous on le fait. C'est-à-dire qu'on dépend moins d'une actu top-down qui nous vient du monde politique, mais depuis le début de la campagne électorale, on a essayé d'aller prendre le pouls des citoyens et de mettre les citoyens au centre de notre attention. On l'a fait à travers l'opération Porte, où Béatrice Delvaux est allée physiquement frapper à des portes à Bruxelles, en Wallonie et désormais en Flandre aussi, pour juste écouter les citoyens. C'était une expérience finalement assez neuve, ça peut paraître bateau, mais très intéressante. C'était pas juste un stylo trottoir pour les écouter deux secondes, elle a passé plusieurs journées dans les différentes communes. Il y a un autre élément aussi qu'on a mis en évidence, c'est qu'on a invité les présidents de parti dans les locaux du Soir et on fait une interview avec les lecteurs et avec les abonnés
avec
qui s'inscrivent et c'est leur question et c'est eux qui les posent et forcément les journalistes font les relances. Et donc dans cet aspect global de traitement important des élections qui sont importantes, alors toutes les élections le sont sans doute, celle-ci certainement, et avec le D-Day qu'on sait avec les élections européennes, législatives, fédérales, régionales, eh bien il nous a semblé important d'ajouter cet outil électoral. Alors c'est pas, Pascal l'expliquera beaucoup mieux que moi, ce n'est évidemment pas Le Soir qui dit ou l'ULB comment les gens doivent voter, mais qui les aide en fait dans leur choix par rapport à ce que les partis pensent sur tel ou tel sujet.
Dans votre définition d'académique, Pascal Delwitt, c'est quoi un test électoral ?
Un test électoral, c'est un processus d'aide à la décision, d'aide à la réflexion par rapport à une date qui est importante, le 9 juin, trois élections, élections législatives, élections régionales, élections européennes. Et donc, par rapport à différentes thématiques, différentes questions qui se posent dans la société, on invite l'électrice et l'électeur, les électrices et les électeurs à voir comment eux se positionnent et quel est leur rapport au parti, puisqu'on a invité les partis à se positionner par rapport à une série de questions.
Oui, on va l'expliquer ça dans un instant. Juste avant ça, je voulais revenir sur la conception du test et notamment les réponses qui sont proposées aux lecteurs, aux abonnés qui remplissent le test. Il y a la possibilité de répondre plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Ça veut dire que vous vouliez donner une importance à la nuance ?
Absolument. Donc, ils ont cinq possibilités de réponse qui vont de tout à fait d'accord à tout à fait en désaccord, en passant par plutôt d'accord, je ne sais pas, plutôt en désaccord. Parce que, effectivement, sur certaines thématiques, sur certaines questions, et en réalité assez souvent, on peut avoir plutôt un accord de principe ou un accord de principe, mais avec certaines réserves. Et donc, dans ce cas-là, on ne souhaite pas nécessairement toujours dire oui ou non, mais un oui mais ou un non mais, et on passe plutôt par la nuance. Et effectivement, cet élément de nuance est un des éléments forts et importants de ce test électoral.
Le risque à ce moment-là, ce n'est pas de pousser les résultats vers le centre, entre guillemets, de pousser vers les résultats les plus tièdes possibles ?
Non, pas nécessairement, parce que, en fait, les citoyennes et les citoyens ont parfois des avis très tranchés sur certaines questions et vont répondre « je suis tout à fait d'accord » ou « tout à fait en désaccord ». Et sur d'autres questions, sur d'autres thématiques, ont un avis moins tranché ou c'est une question qui leur parle moins et donc auront plus de nuances. Mais c'est très rare, très rare, que des électrices ou des électeurs répondent quasi à toutes les questions, plutôt d'accord ou plutôt en désaccord. En fait, ça dépend de la personnalité, ça dépend de la socialisation, ça dépend des questions qui nous parlent, et suivant les thématiques, on sera tout à fait d'accord ou tout à fait en désaccord, plutôt d'accord ou plutôt en désaccord. Et je crois d'ailleurs que c'est vraiment un point fort de l'approche qu'on a adoptée. Ça permet effectivement d'introduire les nuances et de ne pas pousser à ce qui est déjà très fort au demeurant dans la société, à une forme d'exacerbation et de polarisation.
Christophe, au niveau de l'organisation du test, il faut préciser que ce n'est pas nous qui avons choisi les réponses des partis. On leur a posé la question et eux se sont positionnés par rapport aux questions qu'on avait décidé de poser.
Exactement. Je pense que c'est important pour l'électrice et l'électeur de comprendre comment ça se passe. Donc en fait, dans le groupe Recel, donc le soir aussi Sud Info et aussi RTL Info, on avait la volonté de faire ce test électoral. Donc on a appelé Pascal, évidemment, pour avoir la crédibilité et la manière dont il peut évidemment apporter du professionnalisme autour de ça. Mmh. Donc comment ça se passe? Pascal nous a proposé une série de questions sur les thèmes d'actualité, des thèmes aussi, il expliquera mieux que moi, qui peuvent discriminer un parti par rapport à un autre. Parce que si on pose des questions, tous les partis répondent la même chose, mais vous allez avoir un résultat évidemment qui va vous paraître surprenant. Et donc on a discuté beaucoup avec Pascal de ces questions, à la fois des thématiques. Alors donc Véronique Lampquin, rédactrice en chef adjointe, et Bernard de Monti, chef du pôle pouvoir, ont été associés évidemment à cette réflexion. Et on a beaucoup de challenger Pascal, et il nous a beaucoup challengé sur, tiens, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que la question est claire? Est-ce qu'elle est vraiment importante? Une fois qu'on s'est mis d'accord avec l'ensemble des partenaires sur le questionnaire, Pascal a envoyé les questions à l'ensemble des partis. Donc c'est pas nous qui décidons, tiens, on pense que le PS est d'accord ou pas d'accord. C'est l'ensemble des 6 partis qui sont aujourd'hui représentés dans les différentes assemblées qui ont répondu à ce questionnaire.
Pascal, vous avez remarqué dans les réponses que les partis ont apportées, des réponses parfois plus tranchées que d'autres. On voit que certains partis ont voulu se différencier peut-être de leurs opposants.
Alors oui, d'une part, les tests électoraux sont maintenant des processus assez rodés, habituel, assez anciens. Et donc les partis ont aussi adopté bien sûr des stratégies par rapport à ces tests. Et justement, ce qu'on a pu observer, c'est que certains partis ont parfois adopter une stratégie de nuance sur certaines questions qui sont plus polémiques dans la société, alors que d'autres ont au contraire emprunté une voie d'assurer et d'assumer une position plus tranchée. Donc effectivement, suivant les partis, on voit une approche plus nuancée qui vise à ne pas exagérer sa position et d'autres fois, au contraire, à l'assumer pleinement, quitte à avoir sur cette question-là, avec des électrices et des électeurs qui sont en désaccord, fatalement un écart marqué.
C'est ça qui peut expliquer, parce qu'il y a quelque chose qui ressort quand même, qu'on peut ressortir notamment des publications des résultats qui ont été abondamment partagés sur les réseaux sociaux. On remarque une prééminence du parti Défi dans les résultats, qui est souvent relativement haut. C'est parce qu'ils ont, c'est à cause de leurs réponses qu'ils se retrouvent aussi souvent haut dans les réponses, dans les tests des électeurs.
Alors, il y a trois choses. Un, ceux et celles qui ont souligné ça sont plutôt des électeurs de gauche ou de centre-gauche. C'est-à-dire, ce sont des électrices et des électeurs qui ont été surpris, en étant de centre-gauche ou de gauche, de voir Défi aussi haut. Deux, Défi a adopté une stratégie, une modalité de réponse assumée et assurée. Mmh. Et trois, ça renvoie au fait que Défi est sans doute des 6 partis celui qui est le moins bien connu sur plein de questions de société. C'est-à-dire, si vous posez la question de savoir autour du PS, du PTB, du MR, d'écolo, leur position sur
le nucléaire,
la question des pensions, la question de l'indexation automatique des salaires et des choses comme ça, on a un imaginaire assez clair.
On peut identifier très vite la position des uns des autres.
Cet imaginaire est moins clair pour Défi, et ça ramène à une observation, c'est que dans l'esprit historique, Défi, c'est un parti sur ce qu'on appelle nous one single issue, un parti sur une thématique, c'est-à-dire la défense des francophones de Bruxelles. Mais bien évidemment, un parti, il doit avoir un programme complet et avoir des positions sur toutes les questions qui peuvent se poser au Parlement fédéral ou au Parlement régional. Et en général, c'est moins bien connu. Et voilà, notamment sur les questions de société, c'est pas nécessairement toujours bien connu que Défi peut avoir des positions très progressistes pour la libération conditionnelle des prisonniers et des prisonnières, par exemple, pour la légalisation du cannabis, que sais-je encore. Et donc, c'est aussi parce que dans l'imaginaire, on renvoie gauche-droite ou progressiste-conservateur sur une ou deux questions qui nous parlent, mais en fait, ce côté binaire touche plein d'autres questions et ça ramène au fait que, en fait, un stem test, un test électoral, quel qu'il soit au demeurant, touche à différentes questions de la société et donc ça nous permet aussi de voir les positions des partis sur différentes questions. Éventuellement, c'est pas des questions qui nous parlent, éventuellement ça nous intéresse pas nécessairement la position d'un parti sur ces questions-là, mais c'est justement un outil d'aide à la décision et d'aide à la réflexion.
Christophe, je le disais en introduction, il y a de plus en plus de lecteurs et lectrices qui remplissent ce test. C'est satisfaisant au niveau des chiffres.
Ah oui, évidemment. Donc on a dépassé hier, pour les trois médias, les 250 000 participants. Donc c'est quand même important sur une population francophone qui est de 4,5 millions environ d'habitants en Belgique, dont plus de 130 000 rien que sur le site du Soir. Donc c'est évidemment important. Comme l'a bien souligné Pascal, et ça je pense aussi que ce serait vraiment très important, c'est que finalement, je trouve intéressant intellectuellement de se rendre compte que tiens, on est finalement plus proche qu'on le pensait de ce parti-là ou de ce parti-là, parce que ça sort un peu des caricatures là, et aussi parce que la Belgique c'est un pays complexe avec beaucoup de partis, avec des compromis, avec un système qui n'est pas majoritaire mais proportionnel, et que donc être confronté avec ses opinions à ce que ont répondu les partis, je trouve que ça ouvre l'esprit en fait. Et finalement, je vois beaucoup de tests électoraux qui sortent chez d'autres médias. J'ai fait celui de Tlaceni, j'ai fait celui commun de la RTBF et de la Libre avec des médias néerlandophones. Et moi, je trouve que c'est très très intéressant que les médias aujourd'hui en général, au-delà du Soir et du groupe Rossel, investissent, parce que c'est de l'argent quand même de faire tout ça, c'est beaucoup de travail pour le faire. À un moment où on dit que la politique n'intéresse plus personne, où on traite de que les médias peuvent participer à un rejet de la politique ou un désintérêt de la politique, voir l'ensemble de ces médias qui utilisent ce genre d'outils, finalement, je trouve, est une bonne chose pour la démocratie, quelle que soit la manière dont on fait ce stem test, ce test électoral. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, en fait, de voir ça. Ça me réjouit comme citoyen de voir que les médias, en fait, prennent ces élections au sérieux et jouent leur rôle.
Pascal, une dernière petite chose. On précise que toutes les données de ces tests sont évidemment anonymisées.
Bien sûr.
Mais par contre, ça fait quand même un paquet de données pour l'ULB, pour le Cevipol. Comment est-ce qu'on utilise ces données derrière ?
On les utilise surtout dans une logique de compréhension et en particulier autour de ce que nous on appelle la congruence des positions, c'est-à-dire est-ce qu'un électeur à gauche sur les questions socio-économiques l'est nécessairement par exemple sur des questions de société ou au contraire peut être à gauche sur des questions économiques et à droite sur des questions de société ou à droite sur des questions économiques et à gauche sur des questions de société. Donc ça c'est un élément intéressant parce que voilà, dans la simplification du langage, et on doit être dans une logique de simplification du langage, comme acteur, comme enseignant, comme journaliste, on va utiliser gauche-droite, mais en réalité, parfois c'est tout à fait congruent, on est à gauche sur les questions socio-économiques, à gauche sur les questions de société, mais parfois pas du tout. Et donc ça c'est un élément intéressant, c'est de voir quels sont les profils électoraux, congruence ou absence de congruence, et cohérence ou absence de cohérence. Ça, c'est, je crois, vraiment un élément intéressant qui peut ressortir des données.
Merci beaucoup à tous les deux. On invite évidemment nos lecteurs et lectrices qui ne l'ont pas encore fait à remplir ce test électoral qui est toujours disponible sur notre site et sur notre application. À la veille de son investiture pour un cinquième mandat en tant que président de la Russie, Vladimir Poutine a une nouvelle fois, ce lundi, utilisé la menace de l'arme nucléaire. Cette manœuvre censée faire peur aux dirigeants occidentaux prévoit notamment dans les prochains jours l'organisation d'exercices aux abords de la frontière ukrainienne. Alors, comment décrypter ces récentes déclarations ? Faut-il s'inquiéter de ces menaces ? Igor Volt en parle avec Philippe Debouc, journaliste au Pôle international.
Bonjour Philippe.
Bonjour Igor.
Alors d'abord, est-ce que c'est la première fois que Poutine utilise la menace de l'arme nucléaire face aux Occidentaux ?
Non, il l'a déjà utilisé plusieurs fois, notamment au tout début de l'invasion en février 2022, après quelques jours, voyant que l'opération de la prise de Kiev ne fonctionnait pas vraiment comme prévu. Il avait déjà brandi, pas lui directement, mais les Russes avaient déjà brandi cette menace de recourir à l'arme nucléaire. Il l'a utilisé encore plusieurs fois ensuite, jusqu'à de nouveau aujourd'hui, la veille de son investiture pour un cinquième mandat.
Et En réalité, quelles sont exactement les consignes de ces exercices annoncés ce lundi par le président russe ?
Eh bien justement, on ne sait pas, parce que quand on dit des exercices autour d'armes nucléaires, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et il ne dit pas non plus exactement quand, parce qu'il dit dans un futur proche. Mais ça veut dire quoi ? On ne sait pas très bien. Cela dit, des exercices nucléaires, c'est pas faire exploser une bombe nucléaire. Hein. C'est juste éventuellement bouger des ogives nucléaires, ce qui est aussi très compliqué. Et peut-être juste mettre des forces en alerte pour faire un exercice comme ils en font plein en fait.
Et donc Poutine parle de ces exercices comme d'une réponse aux déclarations provocatrices et menaces de certains responsables occidentaux proférées à l'encontre de la Russie. De quelles déclarations parle-t-il ?
Au début, il n'a pas voulu dire de quoi il s'agissait exactement, mais après son porte-parole, donc Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a précisé un peu leurs pensées, parce que les occidentaux, que ce soit des Européens ou des Américains, n'ont jamais brandi la menace nucléaire à l'encontre de la Russie, donc il n'y a pas du tout de menace nucléaire contre la Russie. Ici, il faut quand même rappeler aussi que c'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine et pas l'Ukraine qui a déclaré la guerre à la Russie. Et les Occidentaux fournissent des armes aux Ukrainiens, mais les Occidentaux ne vont pas franchir la ligne rouge et vont certainement pas attaquer la Russie. C'est surtout les déclarations d'Emmanuel Macron, entre autres, qui a déjà à deux reprises dit qu'il pouvait envisager, il faut aussi être prudent sur les termes utilisés, il pourrait envisager éventuellement, à deux conditions, envoyer des troupes au sol, françaises en l'occurrence, parce que Emmanuel Macron n'est pas le patron de l'OTAN, par exemple. Mais donc, c'est tout à fait hypothétique pour l'instant. C'est aussi une réaction d'Emmanuel Macron à des menaces russes. Donc c'est toujours, on répond, l'un répond à l'autre, l'autre répond, et ça continue parce qu'on est toujours en guerre.
Et donc, Philippe, doit-on s'inquiéter de ces nouvelles menaces de la part du pouvoir russe ?
Moi, je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça, parce que c'est plutôt de la propagande, ce sont des paroles. Le but ici, essentiellement, et c'était le cas aussi les dernières fois, c'est pour faire peur. Et l'arme de la peur est une arme assez efficace. Dès qu'on brandit la menace nucléaire ou qu'on prononce le mot nucléaire, déjà tout le monde panique. Mais il faut rester serein, il faut rappeler que l'arme nucléaire est une arme de dissuasion massive. Celui ou celle qui aurait le malheur un jour de tirer un missile nucléaire s'expose à une réplique qui pourrait être bien plus forte que ce que lui a déclenché. Il y a autour de la Terre, surtout sous les océans, des sous-marins nucléaires de plusieurs forces, hein, qu'elles soient russes, américaines, chinoises, britanniques, françaises et compagnie, qui sont prêts à tirer des missiles nucléaires. Donc maintenant, si jamais la Russie venait à tirer un missile nucléaire de surface contre l'Ukraine, la Russie s'exposerait à d'autres attaques potentielles, pas nécessairement nucléaires, parce que les Américains ont dit que si jamais les Russes tiraient une arme nucléaire, les Américains ne répliqueraient pas avec une arme nucléaire, mais une arme qui serait beaucoup plus puissante que ça. Donc voilà, de nouveau, on est toujours dans cette espèce de configuration où chacun se positionne et fait des sorties, et le but ici, clairement, parce qu'en général, quand on fait des exercices nucléaires, on ne les annonce pas. C'est secret défense. Personne ne dit où sont ces ogives nucléaires, ce qu'on en fait. Il y a aussi plein de satellites qui scrutent l'horizon et qui des satellites espions, pardon. Et donc, tout ça, en général, est plutôt gardé secret. Donc ici, clairement, s'il le fait savoir la veille de son investiture, c'est pour envoyer un message, surtout.
Aujourd'hui encore, la doctrine nucléaire russe prévoit un recours strictement défensif à l'arme atomique. Est-ce que ça veut dire qu'on est en sécurité tant que nous n'attaquons pas la Russie ?
En principe, d'après la doctrine militaire russe d'un côté, mais aussi la doctrine militaire de l'OTAN, ce ne sont pas des armes offensives, à moins que cette doctrine ait changé, mais pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que c'est le cas. Et puis, il faut aussi quand même bien se savoir et se souvenir que depuis que l'invasion de l'Ukraine a commencé, on est quand même dans une guerre relativement conventionnelle. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de drones qui sont utilisés et ça n'existait pas avant, mais la guerre, elle est assez basique. C'est pas une guerre très sophistiquée et c'est pas une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire, ce serait la fin du monde.
Dernière question, faut-il s'attendre à une réponse des Occidentaux à la suite de ces menaces russes ?
Je n'en sais rien. Je ne suis pas à la place de ces Occidentaux, donc je ne sais pas. L'un dit que c'est la réponse à la sortie de quelqu'un. Donc ici, la Russie dit on répond à une provocation des Occidentaux. Par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois, je ne crois pas que les Occidentaux vont réagir parce qu'ils savent très bien bien pour quelles raisons Poutine sort ce genre de menace. Ce qui se passe aussi cette semaine, il y a donc notamment l'investiture de Poutine demain mardi, mais il y a aussi le 9 mai la victoire des soviétiques sur les nazis, et donc c'est une semaine pour eux très importante, et donc il faut montrer que la Russie est toujours là, que Poutine défend son pays, défend la nation russe, et c'est plutôt ça le message. C'est pas d'ailleurs exercice nucléaire, on sait toujours pas exactement ce que ça veut dire.
Eh bien merci Philippe.
Merci Igor.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.